je suis venu voir le Saint-Père, c'est notre demande de la part de la Conférence épiscopale nationale du Congo pour pouvoir rencontrer le Saint-Père et lui parler de vive voix concernant la situation dans notre pays, et puisque il est intervenu par deux fois à propos de la guerre au Congo. Alors nous avons tenu à le voir pour échanger avec lui là-dessus de vive voix.
Alors, qu'est-ce que vous avez dit au pape? Comment lui avez-vous exposé la situation actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo?
Oui, j'ai commencé par le remercier au nom de tous les évêques du Congo et au nom de tout le peuple de Dieu qui est au Congo, parce que par deux fois, comme je l'ai dit, le Saint-Père, à l'occasion de l'Angélus du dimanche, a lancé un appel à la communauté internationale pour que cesse la guerre. Et ensuite, la semaine dernière, le Saint-Père a envoyé une aide financière, une enveloppe consistante, et chez nous pour pouvoir assister les déplacés de guerre. Voilà une première chose, les remerciements, donc la reconnaissance pour cette attention paternelle que constamment il porte sur la situation du Congo. Et maintenant, en échangeant avec lui, effectivement, il m'a posé la question de savoir quelle était la situation, et je lui ai donné la situation actuelle, c'est-à-dire que les 2 millions de personnes déplacées sont toujours en train d'errer sans une assistance humanitaire suffisante. Et par conséquent, nous faisons encore appel à la générosité internationale pour que ces personnes puissent recevoir l'assistance nécessaire dont elles ont besoin. Et j'ai parlé au Saint-Père des issues possibles pour la fin de la guerre, de façon que ces personnes puissent regagner leur domicile. Et je lui ai signalé que l'Église, notre Église du Congo, a entrepris des démarches auprès des gouvernants, tout comme auprès de la communauté internationale, pour qu'il y ait plus d'efforts, pour qu'il y ait plus de pression sur les belligérants, de façon que la guerre puisse s'arrêter et que les gens puissent regagner leur village, leur maison, et qu'on s'achemine vers la paix, moyennant la négociation, moyennant les accords qui ont été signés en janvier dernier. C'est autour de ces questions que l'échange a eu lieu entre le Saint-Père et moi.
Alors, est-ce que vous attendez du pape justement qu'il attire encore une fois l'attention de la communauté internationale sur cette situation? Est-ce que vous attendez un nouvel appel de Benoît XVI?
Oui, d'abord je lui ai demandé de continuer à prier pour la paix dans notre Congo, et effectivement, au nom de tous les évêques, et c'est le souhait du peuple de Dieu chez nous, j'ai demandé au Saint-Père de pouvoir continuer à lancer ses appels et d'user de toute son influence auprès de tous ceux qui pourraient intervenir pour que la guerre s'arrête. Je le lui ai demandé. Et il a promis de le faire, de continuer à le faire.
Alors justement, est-ce que ces appels sont entendus? Est-ce qu'ils ont une influence concrète pour la situation actuelle dans l'Est du Congo?
Oui, l'appel du Saint-Père, l'enseignement du Saint-Père, c'est très important. C'est une grande autorité morale dans le monde. Nous sommes certains que c'est écouté. Et est-il que pour l'instant, nous sentons quelque chose bouger du côté des Nations Unies? Ils ont décidé d'envoyer un supplément de 3 000 soldats pour protéger la population. Et ça, ce sont des résultats de diverses pressions, et notamment celles exercées par le Saint-Père. Et sur le terrain, il y a quand même tout un balai diplomatique. Des différentes personnalités qui viennent de l'Union européenne et d'ailleurs pour essayer de influer à gauche et à droite de façon que cela puisse s'arrêter. Certainement, les appels du Saint-Père, ils sont pour quelque chose.
Alors, au-delà de ce balai diplomatique, il y a aussi l'Église catholique qui prend fermement position en République démocratique. Je pense notamment à cette déclaration que vous avez faite à l'issue d'une réunion en session extraordinaire du comité permanent de la conférence épiscopale du Congo à Kinshasa. Une déclaration dans laquelle vous lancez un cri de détresse et de protestation et où vous parlez d'un génocide silencieux. Est-ce que l'Église doit prendre la parole pour justement dénoncer? Est-ce qu'elle est une parole importante aujourd'hui?
Effectivement, l'Église doit prendre une parole dans le sens que nous l'avons faite, parce que nous, les pasteurs de cette Église, nous vivons avec ce peuple à la base. Nous connaissons bien leur situation actuelle, la situation de pauvreté extrême. Et alors s'ajoute une guerre comme celle-là, et nous assistons à des atrocités, nous assistons à des véritables drames humains. Et c'est la dignité de l'être humain créée à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est bafouée. Et c'est pour ça que nous avons voulu lancer un signal fort auprès des gouvernants d'abord et auprès de la communauté internationale. Et c'est notre appel, a été, n'est-ce pas, diffusé un peu partout. Et nous continuons à suivre la situation de façon à rester vigilants et à faire en sorte que ce drame ne soit pas oublié.
Quand vous utilisez dans cet appel le mot de génocide silencieux, c'est un mot très fort, un mot qui frappe en général l'esprit des grandes institutions internationales. Est-ce que c'était justement pour attirer l'attention de tous que vous avez utilisé cette expression très forte de génocide silencieux?
Oui, nous avons utilisé cette expression à dessein et c'est « il vaut mieux prévenir que guérir ». Et nous savons bien que le drame auquel nous assistons s'apparente à un génocide silencieux. Pourquoi? Parce que le ciblage de certaines catégories sociales, les massacres gratuits à grande échelle, les jeunes ciblés, les viols systématiques sur les femmes. Donc, cette systématisation de la violence nous fait un peu peur et nous avons effectivement voulu attirer l'attention des uns et des autres. Car le glissement est facile. Le glissement est facile, on peut aller vers un véritable génocide, oui.
Alors, dans cet appel, vous parlez également de la question des ressources naturelles et du plan de balkanisation. Selon vous, le nerf de la guerre, est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect? En quoi les ressources naturelles et ce plan de balkanisation sont le nerf de la crise qu'il y a actuellement?
Oui, parce que depuis maintenant presque 10 ans, c'est dans ce couloir du Kivu que naissent les conflits armés, constamment. Et à la base, il y a deux raisons. Et d'abord, ces richesses minières, c'est une région qui regorge des richesses minières. Il y a des convoitises et il y en a qui activent la guerre justement pour avoir le temps de piller, qu'il n'y ait pas un contrôle là-dessus, et de cette façon-là, ils peuvent continuer à piller. Et cela est relié à une autre convoitise, c'est qu'il y a des gens qui estiment que le Congo est trop grand et qu'il faut le balkaniser de façon à ce que les terres du Kivu puissent appartenir, on ne sait pas à qui. Donc, les deux raisons-là sont à la base de cette situation dans laquelle, depuis une dizaine d'années, les conflits ne font que naître à partir de cette région-là. Oui. Et nous en avons des preuves.
Alors, que demande l'Église catholique au Congo aujourd'hui pour arriver à une solution de cette situation?
Et ce que nous demandons, c'est d'abord à nos dirigeants de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir défendre l'intégrité territoriale moyennant la formation d'une armée solide, parce que sans une armée, il n'y a pas moyen de défendre nos frontières. Ensuite, une demande à la communauté internationale qui en a les moyens d'intervenir pour que cesse la guerre. Si la guerre est alimentée de cette façon-là, comme on l'a toujours dit, les armes ne sont pas fabriquées au Congo, ça vient d'ailleurs et ça entre de quelque part. Et la communauté internationale a les moyens. Nous avons vu des exemples. Lorsqu'il y a eu la crise en Géorgie, il y a eu une telle pression internationale que la guerre a tout de suite pris fin. Et dans le Kivu, il en est de même. La communauté internationale a les moyens de mettre fin. Il suffit d'une volonté politique au niveau international, oui. C'est ça notre demande et elle est forte.
Et enfin, l'engagement de l'Église sur place, en attendant que justement vos demandes soient satisfaites, on l'espère. Quel est l'engagement de l'Église sur place pour venir en aide aux personnes touchées par ce conflit?
Oui, et concrètement, par notre Caritas nationale, nous sensibilisons les Caritas sœurs à travers le monde de façon à réunir les fonds pour pouvoir assister les personnes en détresse. Et cela se fait. Et notre appel est entendu et notre Caritas est vraiment très engagé pour apporter la contribution de l'Église du Congo, de l'Église universelle, et, n'est-ce pas, au soulagement de cette détresse de la population. Et ensuite, nous avons lancé un appel à tous nos fidèles à travers les diocèses du Congo pour organiser des collectes de façon à rassembler ce que nous pouvons rassembler et de nouveau donner à nos caritas pour pouvoir assister et les déplacés et de toutes les personnes qui sont dans la détresse. Et bien sûr, la prière de tous nos fidèles accompagne ces personnes, qu'elles ne puissent pas se sentir seules. L'Église est avec elles.
Une toute dernière question, Monseigneur Djomo. Ce conflit dans l'est de la RDC dure depuis des années. Est-ce que vous-même, vous espérez encore une amélioration dans les années à venir? À quel horizon, disons, on peut espérer une paix dans l'est de la RDC?
Oui, cela doit commencer par une prise de conscience des citoyens congolais eux-mêmes, que le bonheur viendra de nous-mêmes. Nous n'avons pas toujours à attendre l'extérieur, à mieux organiser notre pays, à mieux profiter de la démocratie qui est quand même un instrument de grande valeur pour le progrès de notre pays. Et je pense que tout passe d'abord par l'organisation interne, par le règlement des conflits moyennant et la négociation, par une approche particulière de ces différents problèmes posés à l'Est et de façon à les régler politiquement. Et ça, c'est une chose importante. Et ensuite, le comité international, de savoir qu'un Congo en paix sera à l'intérêt de tout le continent africain et du monde entier. Et moyennant ces deux perspectives-là, je crois que nous devons garder l'espoir et nous travaillons sur les deux fronts, le front intérieur et le front extérieur. Nous pensons que une paix est possible à l'Est et une paix, la paix est possible pour le Congo, oui.